Première partie. Les bases en moins d'1h45. Plus vite, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus dense. Vous avez cru que j'allais lancer le slogan de Fort Boyard, mais je ne me voyais pas vous donner une énigme du père Foura. Quoique, maintenant qu'on en parle, je vais plutôt vous présenter le directeur de votre attention, installé dans son siège social, le cerveau. Cette première partie est une initiation au sujet, pour vous garder en alerte et vous donner envie d'en savoir plus. Je vais vous fournir les bases nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans vos neurones et il sera temps d'approfondir certaines connaissances plus tard, principalement dans la troisième partie. Pour vous aider à rester vigilant, sachez que vous mettrez précisément moins d'1h45 pour écouter cette première partie. Vérifiez que vous avez ce temps devant vous, buvez un verre d'eau pour ne pas avoir à vous lever pendant que vous écouterez les pistes, faites en sorte de n'avoir ni trop chaud ni trop froid. Pour finir, installez-vous confortablement, coupez les notifications de votre téléphone, le mode avion fera l'affaire, et restons entre nous pour un moment. Attendez. J'en vois qui sont déçus depuis que j'ai dit qu'il n'y aurait pas d'énigme à résoudre. Vous n'allez pas m'obliger à me mettre une fausse barbe blanche et à monter en haut d'une vigie au large de la Charente-Maritime. Si ? Alors soit. Voici une énigme sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. L'énigme de la roulette. Dans cette énigme, vous êtes le héros d'un film de gangster. Vous vous retrouvez à devoir jouer à la roulette russe avec l'un des malfaiteurs. En réalité, vous êtes en infiltration pour l'arrêter. Ce jeu dangereux se pratique avec un revolver muni d'un barillet à 6 coups et d'une cartouche. Le malfaiteur ouvre le pistolet, enlève toutes les cartouches, puis en insère une seule dedans. Il fait tourner le barillet et le bloque sans que personne ne puisse savoir dans laquelle des 6 chambres se trouve l'unique cartouche. Il vous dit que vous allez tirer à tour de rôle sur une bouteille au fond de la pièce. Celui qui fera exploser la bouteille aura perdu. Je n'ai pas vu le film dont vous êtes l'acteur principal, mais je crois qu'il vaut mieux ne pas perdre. Le malfaiteur tire, et aucune balle ne sort. Il est tombé sur l'une des chambres vides du revolver. Il vous donne l'arme et vous laisse le choix de faire tourner ou non le barillet avant de tirer à votre tour. Voici la question. Allez-vous faire tourner le barillet avant de tirer, ou pas, et pourquoi ? Le cerveau, siège de l'attention. Prenons le chemin le plus direct vers votre cerveau. Nous y sommes, le trajet est rapide. Je vous souhaite la bienvenue dans cette masse renfermant des milliards de neurones. Ne faites pas attention à la décoration, c'est un modèle de série. Ce qui se trouve à l'intérieur est néanmoins unique. Après tout, c'est votre organe personnel. Explorons ce vaste domaine pour trouver le siège de l'attention. Oui, l'attention existe en tant que telle, et si nous avons la prétention de reprendre les commandes, il faudrait savoir où se niche cette fragile capacité. Sauf que l'on va vite tourner en rond si nous n'emportons pas la carte cérébrale. Laissez-moi voir. Ah, manque de peau. L'attention n'est pas liée à une région précise du cerveau. C'est au contraire un maillage et une communication entre diverses aires cérébrales. Cet ensemble va décider ce sur quoi vous allez vous focaliser et comment vous allez maintenir votre effort. Si plusieurs zones du cerveau sont impliquées, l'une des plus importantes est celle qui réceptionne tout ce qui vient de l'extérieur. Toutes les informations sensorielles arrivent dans le cerveau au niveau de la formation réticulée. Ce n'est ni un jeu de mots, ni une contrepèterie ratée. C'est une structure nerveuse du tronc cérébral. Il est logique que le secteur qui reçoit tout ce qui provient du monde qui vous entoure soit en partie responsable de l'attention. C'est d'autant plus logique que c'est également cette partie du cerveau qui gère votre éveil. Ne dit-on pas d'une personne qui n'est pas attentive qu'elle rêve ou qu'elle est endormie ? Je prends un instant pour vous préciser que je n'ai suivi aucun cursus universitaire dans le domaine des sciences cognitives ou de la médecine. Ce qui ne m'empêche pas de faire preuve de rigueur dans mes recherches et dans mes écrits en m'appuyant sur les publications récentes des experts reconnus et sur de solides consensus scientifiques. Sans jouer aux médecins, les études scientifiques montrent que l'attention utilise des aires communes avec des domaines que nous attribuons instinctivement à l'attention. La perception, la mémoire, l'écoute active, etc. L'esprit se nourrit de ce qui lui semble nouveau et ou utile. Et oui, quand vous n'écoutez pas l'anecdote de travail que raconte la personne qui partage votre vie, c'est parce qu'inconsciemment vous avez décidé que cette histoire ne vous serait pas utile. Mais comment diable fait votre cerveau pour savoir ce qui est utile ou nouveau ? D'abord, il capte l'information. Ensuite, il la compare avec ce qu'il a en stock dans vos différentes mémoires. S'il ne trouve rien de similaire, bingo, c'est nouveau. Il va peut-être dédier un peu d'énergie à cette nouveauté. Si l'anecdote de votre moitié concerne encore l'une des bourdes quotidiennes de Gérard à la compta, il y a peu de chances qu'il prenne ça pour un scoop digne d'intérêt. Pendant la comparaison avec vos souvenirs, votre mental évalue également la possibilité que cette information puisse vous être utile. Et, si c'est le cas, double bingo ! À vous le gros lot, vous pouvez débloquer une réelle concentration. Votre attention se niche un peu partout. Elle agit aussi sur la vigilance, la concentration, l'éveil, etc. Elle implique vos perceptions, mais elle n'est pas étrangère à votre capacité d'analyse, de raisonnement, à vos capacités de calcul ou de langage, etc. Nous aurons l'occasion de détailler ce qu'on appelle les fonctions cognitives. Pour le moment, traçons uniquement des contours pour cerner la silhouette de l'attention. Voyez cette capacité comme un champ labouré. Vous pouvez planter des graines qui se nourriront de cette terre, mais elles auront besoin d'autres éléments indirects pour grandir, tels que la pluie ou le soleil, pour finalement produire les plantes que vous souhaitiez récolter. Terminé. La métaphore du champ s'arrête là. Si dans la vie, vous laissiez un champ à l'abandon, vous vous rendriez vite compte que rien d'utile ne pousse et que vous n'auriez plus rien à manger. Avec l'attention, il est quasiment impossible de comprendre de quoi on se prive lorsqu'elle ne remplit pas son rôle de manière optimale. Comme si vous n'aviez jamais goûté au chocolat de votre vie, vous ne pourriez pas vraiment savoir à côté de quelle saveur vous passez. En un certain sens, votre attention fonctionne comme elle doit fonctionner. Si un champ ne donne pas de légumes, il n'en reste pas moins fertile pour les mauvaises herbes qui occupent la terre disponible. Comme quoi, la métaphore n'était pas terminée.